Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, j'ai un invité bien spécial que j'avais hâte de recevoir. C'est Jean-Philippe Barbeau, responsable régional des ventes Canada pour Fermentis. Salut JP, ça va bien?
Ben oui, ça va bien toi aussi.
Ça va super bien, je suis très content de te recevoir. C'est vraiment cool parce que j'ai plein de questions en tant que brasseur et puis sur la levure sèche que moi-même j'utilise souvent, tu sais. Puis je pense qu'il y a bien des brasseurs comme moi qui se posent souvent les mêmes questions. Fait que, puis bon, on connaît tous un peu Fermentis, là. Vous faites de la levure sèche qu'on peut utiliser dans briques de 500 grammes, en tout cas dans plein de formats. Fait que, on va parler un peu de tout ce qui entoure ça, la levure sèche. Mais pour commencer, tu peux-tu nous parler un peu de Fermentis? D'où est-ce que la compagnie vient? C'est quoi l'histoire un peu? Puis où est-ce que toi t'apparais dans cette chronologie-là?
Oui. C'est sûr que c'est une longue histoire. C'est une quand même pas mal vieille compagnie. Hein. C'est près de 175 ans environ. Ça c'est parti dans le nord de la France, coin de l'île.
Okay.
Le groupe Le Saf, c'est encore géré par la famille Le Saf depuis le tout début.
OK.
Pas les mêmes personnes. et puis, ben voilà, ça a commencé avec la distillerie, en fait, dans la France. Ça y a eu plusieurs phases. C'est quand même une très longue histoire de compagnie. Ça passait par le matage, ça passait par plein de trucs de même. Mais ça a fini quand même avec des levures notamment sèches, déshydratées, levures sèches actives, en fait. Puis le Saf, très connu en Europe pour, un peu quand même ici, là, bien sûr, mais beaucoup
Ouais.
pour la levure à pain, panification.
OK.
Mais bon, ça, c'est le groupe Le Saf. Et Fermentis, en fait, est une business unit, une entité d'affaires, si on pensait, qui s'occupe des boissons fermentées, donc la fermentation des boissons.
OK.
Cette histoire-là, comme je disais, est un petit peu longue. On peut en parler pendant 45 minutes, c'est déjà beaucoup. voilà. En fait, nous, moi, je travaille pour le Fermentis. Fermentis, on se spécialise là-dedans, mais le groupe a aussi d'autres business units. Donc, il y a la planification, comme j'ai dit, bien entendu. Il y a nous qui s'occupons des levures pour les boissons fermentées, mais il y a d'autres business units. Je n'aimerais pas tous, mais tu sais, il y a Gnosis, il va y avoir Enolis, il y en a plein, Leaf, qui s'occupe du biofuel. On travaille dans le healthcare, dans le animal care. J'ai beaucoup de mots anglais, là. La compagnie travaille, c'est une compagnie globale. Présente
Okay.
partout dans le monde. Je pense qu'on est pas loin de 13 000 employés partout dans le monde. Il y a plusieurs usines réparties dans toutes les régions du monde. Il y a beaucoup de termes qui sont souvent travaillés en anglais. J'ai le défaut de reprendre toujours ces mêmes mots-là. Mais donc, il y a beaucoup de business units comme ça qui travaillent pour différentes choses. Et c'est toujours à partir de cellules de levure. Bon, on a un petit peu de bactéries aussi, bien entendu, là, mais c'est principalement des levures. On va travailler, par exemple, chez nous, chez Fermentis, aussi dans le vin. Dans le vin, il n'y a pas seulement les levures qu'on va offrir. On n'a pas nécessairement actuellement des bactéries pour les vins. On a beaucoup de produits dérivés, en fait, des dérivés de levure, par exemple, des membranes cellulaires ou des trucs qui se trouvent à l'intérieur de la levure pour séparer, pour aider, par exemple, l'amélioration de la couleur, la brillance d'un vin, etc., après fermentation ou même avant fermentation. Donc, on travaille avec toujours des ingrédients de levure pour les producteurs. Et
OK.
ben voilà. Donc, on a aussi quelques enzymes, bien entendu, un peu plus pour le vin actuellement. Le but, en fait, bon, Fermentis, c'est mon travail. Fermentis, l'ambition aujourd'hui, c'est de devenir le choix évident pour la caractérisation des boissons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on aimerait ça qu'un jour, c'est toujours, c'est un peu impossible d'atteindre un but ambitieux comme celui-là, mais le but, ce serait que quand quelqu'un pense fermentation de boissons, il pense Fermentis.
OK.
Moi, quand j'arrive là-bas, là-dedans, ben, ça fait 25 ans que je suis brasseur professionnel, professionnel, du moins dans mon métier. J'ai travaillé à plusieurs endroits, j'ai participé pendant plusieurs années. J'ai succédé, enfin, il y a eu plusieurs successions de travail ensuite, toujours dans le monde de brassicole québécois. Et j'ai fini par être interpellé par l'ouverture de ce poste-là. J'étais à ce moment-là brasseur arrêté chez Belial, et puis il y avait une suite à la pandémie en plus. Puis bon, il y avait l'ouverture de ce poste-là qui me semblait intéressant. Je connaissais déjà quelques personnes qui travaillaient chez Fermentis, que j'avais rencontré par le passé. Et puis, ben voilà, ils m'ont engagé. Puis maintenant, je parcours le Canada, je parle de ma passion de fermentation. Loin dans les quatre murs d'une brasserie, à travailler toujours. Moi, j'y suis souvent, mais pas, plus en tant que visiteur.
Ah ouais. Ouais, ben c'est ça, je te vois aller sur Facebook, là, je vois souvent plein de photos. Ça a l'air trippant, ta job. Tu vas voir bien du monde, tu vas goûter bien de la bière, puis c'est hot, là. Ouais.
Tu sais, tu vois, regarde, j'ai à faire ce qu'on est en train de faire là, parler de fermentation, de ma passion, de parler science, de parler contrôle qualité, puis de parler d'amélioration continue en fabrication et donc en fermentation, bien entendu. C'est toutes des choses qui m'ont toujours animé. Puis là, en plus, je travaille avec une équipe vraiment professionnelle, vraiment passionnée aussi. C'est tous des gens comme moi chez Fermentis, presque tous les niveaux, ils proviennent presque tous de la production, de la gestion de la production. C'est des spécialistes, puis je nage là-dedans avec eux autres, puis le groupe est super agréable. Donc, ouais, très content.
OK. Ah, c'est cool. Ben justement, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, où est-ce que la levure sèche est produite, elle? Parce que là, tu me parles de plusieurs entités, mais spécifiquement pour Fermentis, là, où est-ce qu'on va produire ça?
Alors, bon, comme je le disais, on a plusieurs usines à travers le monde. Pour les levures sèches actives, pour tout le groupe, il y a environ 69-70 usines, je pense, qui viennent d'en ouvrir une dernièrement,
Ah
en
ouais,
Abitibi.
OK.
Donc, 70 usines réparties partout. Pour les levures chez Fermentis, la majorité, mais c'est pas toutes, là, est produite en Belgique, dans notre usine Agat. On a une usine presque dédiée à Fermentis. Pas toutes les levures de Fermentis sont produites là, parce qu'il y a quand même des enjeux de production. Il y a certaines levures qui sont produites au Mexique, d'autres en France, d'autres aux États-Unis, au Chili. Peut-être c'est des exemples, là, il peut y en avoir d'autres. En fait, c'est toujours marqué d'ailleurs sur le sachet d'où ils proviennent, sauf que vous pouvez utiliser. L'idée, c'est qu'on a des différentes usines qui vont avoir différents formats d'empaquetage, premièrement, mais aussi des capacités à mieux travailler avec la séparation, par exemple, du diastaticus. On a des souches diastaticus pour la production des boissons. On préfère pas nécessairement préfère les séparer, mais en fait, pour amenuiser du moins les possibilités de contamination croisée qu'il peut y avoir pendant la production. Même chose pour les Brettanomyces. On a une Brettanomyces sèche, on est comme premier au monde à avoir créé ça. Ben, c'est aussi ce produit à l'extérieur pour de nos produits réguliers pour être sûr certain qu'il n'y a pas de contamination croisée. Par exemple, les bactéries aussi, les bactéries sont séparées, sont dans d'autres usines qui appartiennent aussi au groupe, bien entendu, mais d'autres usines qui sont spécialisées sur les bactéries pour d'autres productions dans le groupe. Et donc, il faut aller chercher des points de production à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc, mais
OK.
voilà. Produit un petit peu partout dans le monde. Les deux émissions, on a des grosses usines qui travaillent pour la planification et donc aussi un petit peu dans certaines levures pour le vin, la distillerie, mais c'est ça. Hein, on travaille effectivement, c'est pas seulement la bière. On parle de brasseurs, brasseurs. On parle seulement beaucoup de brasseurs, mais on travaille avec. On fait des produits pour la brasserie, pour la vinification, bien entendu, pour la production des spiritueux et aussi pour, je suis en train d'en oublier, pour le cidre, bien entendu. Il y a quand même beaucoup de cidre au Québec.
Ouais.
Évidemment, aussi, il y en a quand même quelques-uns. Puis on travaille, on est en train de sortir des produits pour les hydromels. Ça vient juste d'être lancé en Europe, là, mais ça s'en vient ici bientôt. Ça vient tout juste. Il y a des produits pour la kombucha aussi. Voilà, ça s'est distribué un petit peu partout dans le monde. Voilà, c'est là.
OK. Je pensais pas que c'était aussi gros que ça, mais être bien honnête avec toi, là, mais c'est quand même assez solide, là. 70 usines, là, c'est quand même. Une grosse industrie, là.
On dit, quand on fait des présentations, on parle de Fermentis, évidemment, on évoque toujours l'aspect qui est quand même le groupe. On donne souvent cette petite anecdote-là que je trouve super savoureuse, ce jeu de mots. Un pain sur trois, une miche de pain sur trois dans le monde entier fabriqué avec les produits de la SAF. Ça, c'est
Wow.
la planification. On ne parle pas
OK.
du reste, là. C'est quand même immense. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de levure.
Wow. Ouais, vraiment. OK. Je comprends un peu mieux, là.
Ouais, tu sais, je disais, on a 13 000 employés. J'ai visité déjà deux, trois usines, déjà, le SAF. principalement pour Fermentier, bien entendu. C'est des usines qui sont presque complètement, ben, pas toutes, là, mais je veux dire, il y a une grande partie de la gestion, par exemple, des entrepôts, j'ai un mot en anglais encore qui me revient, je vais tilter des fois. C'est robotisé, en fait, pour améliorer la capacité puis, de production, puis s'assurer que ce soit encore plus juste, en fait, qu'on aille vite, hein. C'est des grosses usines, c'est des grosses commandes partout dans le monde, puis fait, voilà, t'imagines.
Ouais. Puis y a-tu des usines dans le coin, mettons, tu sais, au Québec ou au Canada ou
Non, la plus proche, ça va être les États-Unis,
OK.
le plus proche d'ici, en fait. Hein. C'est une compagnie française à la base, bien sûr, fait que c'est vraiment l'Europe qui a été probablement développée au début. Je dois dire ça, je ne sais pas exactement dans quel ordre ça s'est fait, non, ça fait très
Ouais.
longtemps. Mais on est présent au Canada depuis très longtemps. Et Fermentier, c'est la salle, bien entendu. Mais moi, par exemple, je me rapporte à Milwaukee, Wisconsin.
Ah, OK. OK. Fait que c'est pour ça que l'anglais embarque.
Ben, je travaille beaucoup en anglais, hein. Le Canada, c'est très anglophone.
Ouais. Tu peux-tu nous parler un peu du processus de fabrication de la levure? D'où est-ce que ça part, sous quelle forme, puis c'est quoi les étapes que ça va suivre?
C'est quand même évidemment complexe un peu. Les détails aussi qui sont un petit peu peut-être trop complexes en fait pour qu'on en discute, mais oui, je peux t'expliquer un petit peu comment on fonctionne. Il y a plusieurs étapes, bien entendu. Nous, on part, on a une banque de levure. Il y en a une chez pour Fermentis, il y en a une pour Le Sartre aussi. La collection de Fermentis fait évidemment partie de la collection Le Sartre, mais c'est donc une très grosse banque en fait de levure, de souches. Les souches sont gardées sur des lamelles, là, à moins 80 degrés Celsius, en fait, pour la conservation du terme, dans la collection, je pense. Ça va aider, c'est un peu sec. Et donc, la première étape, en fait, c'est de créer de la biomasse. Donc, on va partir de cette lamelle-là, puis on va faire des toxibérylavins, en fait, pour être capable de créer de la biomasse, donc une quantité de cellules en masse, donc, un peu comme de la crème, hein, comme un gros pudding.
Ouais.
Et donc, on va fixer ça, évidemment, pour la reproduction. La reproduction va se dérouler en phase aérobique, donc présence d'oxygène. Puis, évidemment, on va utiliser des nutriments pour aider la levure, les cellules à se dérouler, puis à créer donc cette masse-là. Chaque recette est spécifique à chaque souche. Donc, il y a vraiment des particularités. Hein. C'est pour ça, je sais pas, peut-être que, je sais pas si tout le monde connaît bien l'idée de la reproduction, mais c'est-à-dire de la... Pardon,
Propagation.
une propagation, voilà. Tu sais, c'est pas anodin la façon de propager, c'est notamment pour ça que chaque levure est différente, hein. Chaque être humain est différent, mais chacun a ses besoins, la levure, c'est pareil. Chaque souche a ses besoins, et donc, il y a une recette que nous, on développe pour chacune des souches qui va être ensuite produite en grande quantité. C'est vrai, très important d'être très, très précis,
OK.
et donc, nous, évidemment, on a des usines qui sont à fin de pointe de technologie qui nous permettent d'être précis. Après cette étape-là de production de biomasse, en fait, on va faire succéder plusieurs étapes de séparation, de filtration. Ça va s'accompagner évidemment de déshydratation. L'idée, c'est que pendant ces étapes-là, ils vont avoir une extrusion, en fait, de la crème sèche, qui sèche de fond en fond. En fait, chaque étape va retirer une portion d'eau. Donc, tranquillement, pas vite, pour la sécher. Et donc, ça va passer par des points d'extrusion qui vont donc permettre de faire passer la matière sèche d'une vingtaine de pourcents, là, quand c'est de la crème de levure, de la levure liquide, jusqu'à plus, ou enfin, autour de 95%. Alors ça, cette 95% de matière, c'est ce qu'on a dans les sachets. Donc, quand tu regardes la levure, il y a 95, quand tu lis dans le sachet, tout, il y a 95% de matière sèche environ. Petit point de pourcentage de plus.
OK.
Et l'idée, c'est qu'en ayant ce pourcentage-là, mais ça permet d'avoir une excellente stabilité sur les tablettes. On n'a pas besoin de les réfrigérer nécessairement. Quand on est producteur, tu sais, quand on est distributeur, on essaie de le faire. Quand nous aussi, dans nos usines, bien entendu, mais quand on est producteur, si tu l'utilises dans un temps raisonnable, surtout avant la date d'échéance, ben, tu es capable de. Tu n'as pas besoin de la réfrigérer. Ce n'est pas tout à fait la même chose pour les bactéries, ça c'est de la sour LB1. C'est
OK.
pas exactement pareil parce que ceux-là sont un petit peu plus fragiles, disons, au
OK.
chef ou à la stabilité sur les tablettes, mais le levure sèche notamment, normalement, elles sont très stables. Et c'est à cause de ça, notamment.
OK.
L'idée aussi, c'est que C'est pas grave si t'as réfrigéré, bien entendu. En fait, c'est sûr que c'est toujours mieux, mais c'est pas grave. C'est pas grave non plus si tu la congèles parce qu'il y a pas, il y a tellement peu d'eau que les cristaux de l'eau va pas, quand elle va cristalliser, en fait, il y a tellement peu d'eau qu'il n'y a rien cristallisé.
Ouais.
Donc, la levure va pas se couper, en fait, par les cristaux de glace, tu sais, pendant la congélation. C'est un peu l'idée, là, de
OK.
cette chose-là. Enfin, ben, on utilise ensuite des emballages évidemment différents selon ce qu'on fait. Je vais montrer 500 grammes. On a des petits 100 grammes pour les bactéries, puis pour la bête aussi par 100 grammes.
OK.
On a des paquets de 25 grammes pour plusieurs personnes qui connaissent la S04.
Ouais.
Donc, on a des différents formats. On a du 100 grammes aussi qui existent pour les levures à brasserie. On a d'autres formats, mais c'est ça. Donc, tout ça va être dépendamment de qu'est-ce qu'on a besoin au final, si c'est soit pour le brasseur d'épicerie, ou pour le brasseur artisanal, ou le brasseur industriel, on a des gros formats aussi. C'est un petit
Okay.
peu ça.
OK. Fait que dans le fond, il n'y a pas de déshydratation sur tu sais, d'une shot parce que j'imagine que tu pourrais avoir une bonne perte au niveau des levures, j'imagine. Ça serait
Il y
trop
a,
hard.
si on, tu sais, quand on achète des produits pour produire de la bière ou en fait pour faire de quelque chose pour de la nourriture, quelque chose de vivant, hein. Et le levure, c'est vivant quand même. Même si elle sèche, elle est en mode dormance, mais elle est vivante. C'est important de, il y a peu de monde qui le fait. Pour vrai, je le faisais pas tout à fait vraiment non plus. Je regardais certaines choses, mais les TDS, les Technical Data Sheets, c'est relativement très important. Si vous regardez un petit peu celle de Fermentis, surtout si vous voulez comparer les parallèles à ce qui existe sur le marché actuellement, vous allez voir que la qualité est excessivement élevée et c'est quelque chose qui est très important pour nous. Puis, la quantité de levure vivante après réhydratation, chez nous aussi, elle est excessivement élevée. Ça, c'est pas nécessairement marqué sur le TDS, sur
Ouais.
le pourcentage de viabilité, mais il est vraiment élevé. Et c'est notamment à cause de nos techniques de production, de séchage, d'emballage, tout le contrôle qualité qu'on a pendant la production jusqu'à ce que ça arrive dans vos mains, en fait, c'est ce qui donne effectivement une excellente qualité puis une grande vitalité.
OK. Pourquoi la forme de bille comme pour la levure? Est-ce que c'est comme tu sais, parce que veux pas on sait que les cellules de levure, c'est microscopique, là. Fait qu'est-ce que ça représente, ces petites billes-là, de
Ben,
levure sèche?
c'est pas tout à fait une bille, mais
Ouais.
c'est vrai que ça y ressemble beaucoup à l'œil comme ça. Si on regarde vraiment de proche, 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 c'est plus comme une genre de forme de, comme une genre de pellet de houblon. On les connaît plus parce qu'elles sont plus grosses, on les voit bien. C'est un peu
Ouais.
le même truc, c'est un genre de cylindre coupé. Alors, je vous ai parlé d'extrusion tantôt, hein. La crème devient, en séchant tranquillement pas vite, est extrudée. Bon, mais en fait, c'est comme un genre de long fil qui ensuite est coupé, ben, coupé
OK.
naturellement, là, enfin, pendant le séchage, qui se coupe d'eux-mêmes, puis dans le fond, c'est des petites pellettes comme ça.
OK.
L'idée, c'est que ces cylindres-là, évidemment, nous permettent, pendant le processus de fabrication, mais ils nous permettent d'avoir la qualité qu'on parlait. Qu'est-ce que je voulais dire?
Oh, oui,
C'est pas
non,
ça.
non.
C'est mécanique, la raison, donc c'est comme ça. Évidemment, on s'entend, si tu regardes une petite pellette, ben, en fait, c'est plusieurs cellules collées ensemble qui ont pas floculé, là, parce que c'est pas par floculation, c'est en plein, mais qui forment des flocs, puis qui sont ensemble. Donc, quand on va les,
OK.
tu sais, quand, une chose qui est intéressante, je me suis pensé, c'est que la forme, on imagine bien une levure, là, c'est rond avec des trucs à l'intérieur, quand ça se dédouble, quand ça botte en anglais, ben, il forme un deuxième petit bourgeon, en français, là, sur la levure, puis après ça va se séparer, en plus grosse. Donc, la cellule est ronde, lisse, c'est une bulle, en fait, grosso modo, comme genre de bulle. Mais quand elle sèche, en fait, c'est la même bulle, mais ratatinée. Un peu
OK.
comme un raisin sec, grosso modo, tu sais. Mais en
OK.
très petit, des très, très petits raisins secs.
OK.
Et puis, c'est ça qu'il y a, en fait, dans ces petites pellettes-là. Quand on la réhydrate, en fait, le temps de réhydratation est assez rapide, là, c'est en dedans de 15 minutes, c'est réhydraté dans le bout, là, ou whatever. Eh bien, en fait, avoir gonflé, reprendre sa pourcentage d'humidité qu'elle a perdu pendant la déshydratation, la production, et puis elle va devenir aussi ronde qu'elle était.
OK. Très intéressant. C'est quoi la quantité de levure qui est produite chaque année chez Fermentis? Là, c'est sûr que je m'attendais pas à un aussi grand nombre d'usines. Fait que j'imagine que ça va être un très gros chiffre, là, mais pour nous
On
donner une
a
idée.
beaucoup de produits.
Ouais.
En fait, je ne sais même pas le nombre exact de produits, je n'ai jamais compté, mais on en a vraiment beaucoup. On a une production mondiale. On fournit presque toutes les régions du monde. Et là, bon, on parle de fermentisme, mais quand même, on travaille donc pour la bière, pour le vin, pour la distillation, comme tout ça, les produits d'alcool, les biens d'alcool, c'est quand même quelque chose d'important. On a plusieurs segments. La réponse, c'est beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas une petite compagnie.
Ouais. Mais d'abord, je vais peut-être modifier ma question un peu. C'est quoi, c'est comme quand j'étais chez Unibrew, mettons, les indices de performance, c'était en hecto. Fait que là, on faisait un 200 000 hecto par année dans le temps, là, t'sais. À cette heure, c'est rendu pas mal plus, mais fait que vous autres, c'est quoi vos spécification, ben pas spécification, unité de mesure, c'est quoi votre unité de mesure pour, mettons, sans connaître votre production?
C'est des kilos.
Des kilos? OK.
Ben, les tonnes, j'imagine. Pour vrai, vu que je travaille pas vraiment avec les entrepôts directement, ni avec la production directement, en fait, j'ai même pas le chiffre exact de qu'est-ce qu'on produit. On en produit vraiment, vraiment beaucoup. Surtout que Fermentis, ça reste que c'est une partie de ça. Je pense que le SAF
Ouais.
encore beaucoup. C'est beaucoup, en fait. Pour vrai, là, regarde la preuve, là, si tu imagines, ben, tu sais, il y a plusieurs de nos sources qui sont très connues. Il y en a quelques-unes qui sont un petit peu moins connues, disons. On a sorti beaucoup de nouveaux trucs dans la dernière année. Il y a plusieurs nouveaux trucs qui s'en viennent aussi. Si tu imagines qu'on est capable de fournir autant le brasseur en Italie qu'en Chine, qu'au Royaume-Uni, qu'en Afrique du Sud, désolé, en Argentine, qu'au Canada, que Wisconsin, comme à la Nouvelle-Orléans, avec toutes les soupes qu'on fait. Puis tu sais, pour la bière, là, si on imagine, c'est plus que ça, on doit avoir peut-être au moins une trentaine de souches faciles pour les bières, non? Si c'est pas plus. Si c'est disponible partout dans le monde, toujours.
C'est bon, j'ai ma réponse.
C'est beaucoup. Je me souviens même pas la dernière. En fait, je pense que c'est jamais arrivé qu'on a qui étaient disponibles puis qu'on a décidé d'arrêter la production. On a juste augmenté notre portfolio depuis toutes les années dans tous les segments. Donc, notre force, c'est d'être stable dans notre production, puis d'être stable dans notre distribution, aussi dans notre disponibilité.
J'ai remarqué des fois, là, c'est sûr que tu sais, on ne fait pas affaire directement avec vous autres, là, mais on a remarqué des fois qu'on pouvait recevoir des packs de levure qui étaient plus proches de la date de péremption que de la date de fabrication. Puis, et donc, une viabilité théorique qui est plus basse. Qu'est-ce qui peut causer ça, là? C'est dur à dire, tu sais, worldwide comme ça, là, mais qu'est-ce qui pourrait causer ça?
Bon, déjà, un des points importants, effectivement, c'est de réaliser, de souligner, disons, que la date sur les paquets, c'est une date qui est meilleure avant, mais ça ne veut pas dire qu'on a expiré après. Nous, on a exactement déterminé ces dates-là pour des raisons réglementaires. Et donc, ça veut aussi dire que c'est sûr qu'à cette date-là, le produit, s'il est maintenu dans les conditions qu'on l'a recommandé, c'est sûr qu'il n'y aura aucun problème jusqu'à cette date-là. Ça, c'est absolument sûr. Chose aussi certaine, c'est que nous, il n'y a jamais un paquet qui va arriver dans les mains des distributeurs qui va être trop proche de la date de meilleur avant. Comment on dit ça en français, best before date? C'est date meilleure avant. C'est pas une péremption, parce que péremption, on veut dire que c'est fini après.
Ah, ouais.
En tout cas, date
Ouais,
meilleure.
ouais.
Donc, nous, évidemment, comme je disais tantôt, on a une production globale, une distribution globale. C'est sûr qu'il y a un temps que ça prend, évidemment, de se rendre entre notre production, nos entreposages, l'entreposage partout dans le monde, dans tout notre réseau, mais ensuite chez nos distributeurs, chez nos sous-distributeurs, puis ensuite de ça, chez le petit commerçant peut-être, puis ensuite de ça, dans vos mains, vous autres. Donc, il peut y avoir, tu sais, surtout que de nos jours, faut pas l'oublier, le transport est un peu moins vite, disons-le comme ça, qu'avant.
Ouais.
Donc, depuis 3-4 ans, c'est comme un petit peu plus difficile. Ça peut probablement être dû à ça. Quoi ça serait dû exactement, je pourrais pas le dire. C'est sûr que nous, c'est très important pour nous la qualité. Puis, clairement, les dates J'essaie vraiment de les avoir. Mais en fait, que ça se rentre chez vous le plus tôt possible. Et puis,
Ouais.
tu sais, on a aussi une des dates les plus longues en termes j'ai toujours Chef Life, en fait, en termes de
De
stabilité de produit.
stabilité, ouais.
On a une des dates les plus élevées, puis tu sais, on en est bien fiers parce que ça permet justement d'avoir du temps, justement. On n'est pas pressé, on n'a pas besoin de retirer des produits ou d'être obligé de retester en laboratoire, s'assurer que c'est encore bon, on va les laisser sur la tablette. Pas de truc qu'on aime bien, bien faire.
Ouais, je comprends. Mais d'abord, ça m'amène à une autre question. C'est quoi le temps de production, tu sais, mettons, justement, tu sais, ça sort-tu dès que c'est produit ou est-ce qu'il y a un temps de, tu sais, de conditionnement, si on pourrait dire, ou c'est un produit qui peut, tu sais, dès que c'est en sachet, ça peut sortir tout de suite puis direct sur le marché?
Non, parce que ben non, puis oui, là je veux dire, c'est pas si long que la production, que la sachage, mais c'est sûr qu'on a des tests de contrôle qualité, c'est très important. C'est pas une fois que le produit est fini, c'est un peu comme une brasserie, normalement, tu es supposé avoir des produits de côté, puis après tu t'assures que le produit est stable avant de l'envoyer sur le marché, puis ensuite de ça, tu fais même des revérifications pour s'assurer que c'est correct. On fait le même genre de tests, hein, ça s'en va pas sur le marché sans test d'assurance qualité, finalement. Le temps exact, je ne sais pas, mais c'est pas très long. J'ai visité l'usine, puis tu sais, le séchage, c'est pas nécessairement quelque chose qui est si long que ça non plus, là. Il y a un temps, bien entendu, là, mais je veux dire, ça prend pas des semaines.
Ouais.
Puis donc, après ça, je pense que ce qui est peut-être plus long, une fois qu'il est en séché, c'est surtout la gestion d'entreposage, tu sais, s'assurer que c'est produit envoyé aux bonnes places, ensuite, redistribuer dans nos centres de distribution pour ensuite aller chez nos distributeurs. Cette partie-là peut peut-être être un petit peu plus longue, moi, j'entends, là, je parle pas de moi, là.
OK. Souvent aussi, quand on va utiliser là, des packs de levure, c'est comme avec Beer Smith, par exemple, là, on a des outils qui vont calculer la viabilité théorique là, que je te parlais tantôt, qui est calculée automatiquement. Est-ce que ça se rapproche vraiment de la réalité, le calcul dans ce genre de logiciel-là?
C'est clairement pas nos calculs. J'imagine qu'ils font des calculs pour toutes les levures sans avoir de spécifications pour des produits spécifiques, pour des marques spécifiques. On travaille généralement avec, on essaie du moins de travailler en général avec ce genre de compagnie-là, Beer Smith, mais d'autres aussi, bien entendu, pour corriger leurs données, s'assurer qu'ils ont les bonnes informations aussi, des fois même les températures, les bitrates, les taux d'inoculation. C'est pas tout à fait toujours exact, hein. C'est toujours mieux d'ailleurs de se référer à nos fiches techniques. C'est vraiment là l'information la plus claire.
OK.
Sinon, ben, votre représentant revient mal.
Ah,
Mais nous, on fait beaucoup de tests de recherche appliquée. En fait, on fait beaucoup pour s'assurer évidemment la caractérisation, mais aussi la qualité, la viabilité, la vitalité. Mais on en a fait beaucoup dans le temps aussi, là, quand on a créer notre programme là, en fait, de caractérisation pour s'assurer que nos viabilités pendant l'entreposage étaient toujours bonnes. Puis tu sais, c'est sûr ça a un lien avec ça, ce que tu me dis, nous. Nous, on sait que avec nos tests qu'on a, puis le contrôle qualité qu'on a, on sait que 3 ans d'entreposage, tu sais, même à certaines températures qu'on peut imaginer hautes, mettons où tu gardes ton sachet à 25 degrés Celsius là, pendant 3 ans, la levure, même à cette température-là, devrait avoir un de 70% de viabilité, ce qui est quand même
OK.
pas mal bon. Puis ça, c'est pour nous, peut-être notre souche la plus difficile, la moins robuste, disons, la plus fragile, tu sais. Fait que 70% de viabilité, 25 degrés Celsius pendant 3 ans, avec notre souche la plus la
Fragile.
moins robuste, c'est quand même pas mal. Si c'est réfrigéré, tu sais, on sait que la viabilité après 3 ans va être proche de 95%
Ah, OK.
ce qui a été impacté, de ce qui était dedans.
OK.
Après, tu sais, presque, tu vas peut-être avoir perdu 5% de viabilité, là, 95% de ce qui était viable. Donc, on va avoir peut-être perdu 5% après 3 ans de réfrigérer.
Ah, OK.
C'est clean. C'est pour ça que je te dis, je ne sais pas exactement comment ils font leurs données. Nous, on a un groupe global, évidemment, on a une équipe globale. On a une équipe chez nous qui travaille notamment avec eux, Bill Smith, mais d'autres, pour s'assurer que j'ai leurs données, mais pas notre documentation qu'utilise directement.
OK. Très intéressant. Maintenant, Bon, une question, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait considérer que c'est une question un peu conne, parce que naturellement, quand tu ouvres un paquet de levure, tu devrais l'utiliser en entier, mais bon, est-ce qu'il y a moyen de conserver cette levure-là une fois que le paquet est ouvert?
Oui, effectivement, c'est mieux d'utiliser le paquet complet. C'est pour ça qu'on a différents formats. C'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir une levure qui est empaquetée avec le gaz net et tout, là, puis bien sûr. D'ailleurs, peut-être que c'est important d'expliquer aussi juste avant comment, mais si vous achetez un paquet brique, c'est supposé être. C'est pas pareil, parce que ces achats-là ne sont pas produits de la même façon avec le même genre de trucs pour la stabilité. Mais ça, c'est très important que ce soit dur, que ça n'ait pas perdu son vacuum. Des fois, là, ça peut être genre un petit bout de crayon qui a pu pointer, ça paraît pas beaucoup, mais un micro trou, une micro fissure, puis il perd son vacuum, il n'y a pas rien qui tombe. C'est pas l'idéal, en fait, parce que ça va expliquer un petit peu pourquoi il faut utiliser normalement le sachet complet. C'est que si on, ça, c'est 95% de matière sèche. Si je l'ouvre, il y a aucune, il y a 0,5, il y a 5% d'humidité. Hein. Donc, si je l'ouvre, il y a combien d'humidité dans l'air? Beaucoup plus. Il y a de l'oxygène aussi, mais il y a surtout d'humidité. Puis, qu'est-ce qui va se passer avec l'humidité dans ce paquet-là? Ben, en fait, qu'est-ce qui va se passer avec la matière dans ce paquet-là? Elle va s'égaliser en humidité avec l'air ambiant. Puis donc, il va y avoir beaucoup plus d'humidité là-dedans. Une fois qu'il y a de l'humidité là-dedans, ben, la levure, elle peut, elle veut, elle pourrait, elle voudrait sortir de dormance puis commencer son travail. Et si elle travaille pas, la levure, ben, elle va perdre la vitalité, puis la vitalité, puis elle va juste être moins bonne. Fait qu'on va perdre des cellules. Donc ça, c'est le danger. Ensuite, oui, il y a moyen de réutiliser du moins un restant de sachet, même si c'est pas l'idéal. Quand c'est réouvert, quand c'est ouvert, évidemment, se servir de la quantité qu'on a besoin le plus vite possible pour être capable de refermer le sachet le plus vite possible. Là, je pense qu'au prix que ça coûte, ça vaut pas la peine, là.
Ouais, les petits sachets, là, ouais, ça vaut pas même la peine.
Donc, je peux
Ouais.
comprendre, même si on a quand même des 100 grammes, qui peut peut-être être intéressant si on a besoin d'une partie. Mais bon. Donc, une fois qu'on l'a refermé le mieux possible, là, le mieux possible, c'est pas vraiment, j'ai pas de données là-dessus, j'ai pas de, tu sais, ça vient pas qu'une garantie non plus, là. Bon, mais un vacuum sealer, là,
Ouais, une selleuse là sous vide.
une plus automatique, ouais. Ce genre de truc-là peut être bien, si c'est fait, si c'est bien fait, bien entendu. Pas besoin de tout passer à l'alcool, là, ça va tuer les levures. Tu sais, c'est sûr, évidemment, d'être le plus propre possible, le plus vite possible. Pour enlever l'air, en fait, le plus vite possible. Si on enlève l'air, on enlève l'humidité, du moins une partie de l'humidité qui aurait pu rentrer dans le sachet. Donc après ça, une fois par contre que c'est comme ça, le truc, c'est vraiment de mettre au frigo le plus vite possible. Puis s'en servir idéalement dans une semaine. Puis comme je disais, là, à ce moment-là, c'est dur d'avoir une garantie parce que c'est pas moi qui le scelle, c'est pas moi qui l'ai scellé. Mais c'est pas nous qui le scellons, évidemment, tout, tu sais, il y a d'autres trucs qui peuvent arriver, mais théoriquement, c'est supposé être correct.
Comment elle se comporte la levure sèche sous pression? Est-ce qu'elle est plus fragile dans ces conditions-là ou peut-être même dans d'autres conditions? Non.
C'est en fait, c'est si je prends une levure sèche, puis je prends une levure liquide, je sais pas, disons que. Enfin, si je prends une levure sèche, ça va aller. Je prends une levure liquide, clairement, ça, c'est plus résistant. Dans son sachet. Ça,
La
c'est sûr,
sèche.
certain, parce que ta levure liquide, quand elle est dans sa poche ou son tube ou whatever, donc, quand elle sort de son réacteur, de la levure ou de son fermenteur, ou quoi que ce soit, ben, elle, tout ce qu'elle veut, c'est fermenter. Levure, c'est fait pour fermenter. Elle a un travail à faire, elle ferme. Si elle fermente pas, ben, c'est comme je disais tantôt, à un moment donné, si ça sort de dormance puis qu'elle fait rien, ben, elle va mourir. Donc, théoriquement, ça, c'est plus résistant. Une fois que tu l'as réhydraté, après ça, pitcher dans ta bière, inoculer dans ton liquide à fermenter, ta bière ou dans ton autre boisson que tu pourrais fabriquer, eh bien, en fait, c'est de la levure. Puis une levure liquide ou une levure sèche qui était hydratée, same thing, bonnet de
Ouais.
la même. Donc, il n'y a pas vraiment de différence rendue là. Ça va vraiment dépendre de la vitalité et viabilité de ton produit une fois que tu l'inocules, puis il n'y a pas de différence. Normalement, t'sais, si on ferment sous pression, généralement, c'est parce qu'on veut que la levure goûte moins, parce que, en fait, c'est ça qui va se passer souvent, mais ça reste quand même stressant. La levure pas supposée fermenter très froid, pas supposée fermenter sous pression, n'est pas supposé faire des trucs comme ça en général. C'est des trucs qui lui demandent beaucoup d'énergie. Fait que, faut leur, si on fait ça, il faut l'aider de différentes méthodes. Ça dépend beaucoup de ce que tu fermentes, là, mais il y a pas de raison comment dire, qu'elle travaille différemment qu'une levure.
OK. On va enfin mettre fin à une coupe de débat. Premièrement, le premier débat, là, est-ce qu'on devrait toujours oxygéner le mou quand on utilise la levure sèche? Parce que là, tu sais, si tu vas de ces forums, c'est vraiment c'est polarisé. Puis la plupart du temps, les brasseurs avec qui je parle, ils vont dire j'oxygène pour avoir la tête tranquille, mais on dirait qu'il n'y a personne qui a vraiment la vraie réponse à cette question-là.
Je me souviens plus c'est en quelle année exactement, mais on a sorti on va le voir un petit peu mieux, là, ici, hein, E2U, c'est Easy to Use.
Ouais.
Aussi. Fait que ça, on a sorti cette certification-là, disons. C'est une certification interne, mais c'est dû aussi avec, ça fait partie de notre programme de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire, Easy to Use? Ça veut dire que tu peux prendre ton sachet, tu peux l'ouvrir, mettre ça dans ton mou, sur ton mou, pendant qu'il se remplit dans le fermenteur, que ça soit quand même un peu mélangé, là, sans que tu aies besoin de mélanger toi-même. Puis, sans oxygène, si tu as un mou, ce qu'on appelle standard, normal, un mou moyen, disons, on parle de 10 à 16 plateaux, puis que tu suis évidemment les recommandations de fermentation, donc la température, la plage de température, t'as pas un pH agressif, t'as pas beaucoup d'adjuvants parce que tu utilises énormément beaucoup de céréales non fermentées, non maltées, ou beaucoup de sucre. Par exemple, tu fais une Belgian Triple, tu vas rajouter du sucre candi ou du dextrose, peu importe, puis tu vas mettre... Ben là, tu rajoutes du stress à ta levure, puis à ce moment-là, c'est peut-être différent. Mais t'es pas supposé avoir besoin d'oxygène parce que l'oxygène, elle sert à... créer des stérols pour aider à ce que la paroi cellulaire de ta levure soit assez résistante et malléable pour subir le dédoublement, en fait, une meilleure cicatrisation aussi de la paroi cellulaire, de se dédoubler, puis évidemment d'être capable aussi de mieux transporter les sucres à l'intérieur de la cellule par la voie métabolique. Ceci dit, nous, quand on produit de la levure sèche, on va la déshydrater. Je l'ai dit tantôt, hein, ça va être ratatiné, puis ensuite, ça va redevenir sphérique, puis lisse. Ben, pour subir ça, premièrement, de déshydratation, mais aussi pour être capable de revenir bon, puis beau, puis en santé, ben, il faut déjà que la paroi cellulaire soit quand même assez épaisse, du moins résistante et malléable pour être capable de subir ça. Donc, on a déjà, nous, dans notre production, en fait, dans notre programme de production, on a déjà prévu les stérols nécessaires pour le faire, et il y en a suffisamment pour que si elle a besoin de se dédoubler pendant la fermentation, au début de la fermentation, c'est-à-dire que t'as pas besoin de rajouter de sérum. En fait, même à la limite, tu sais, ça c'est une histoire vécue. Dans une brasserie où je travaillais, on avait fait des inoculations, une brasserie assez d'heure, en fait, donc les équipements étaient très neufs. Je suis habitué de laver des brassées, j'ai fait ça longtemps. Quand tu brasses, tu laves. Donc, tu sais, j'ai une bière d'oxygénation parce que bon, j'utilisais de la levure sèche, j'utilisais d'autres levures aussi, j'utilise de la levure de partout. J'ai travaillé souvent en R&D, puis bon, à ce moment-là, tu testes plein de fer. Et donc, j'oxygène mon mou, puis ben, plus ça allait, pas dans ce brassin-là, mais plus les brassins allaient, puis c'est au début, là, au lancement de la brasserie, mais plus on se rendait compte qu'il commençait à y avoir une charge bactériologique qui augmentait. Pas grave, pas intense, mais ça augmente, donc tu sais, ça vient tout du dry-up, on a fait du blanage à froid, des fois il y a des sporules là-dedans, puis tu fais des tests de labo, mais tu vois pas exactement c'est quoi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Puis là, ben, on a commencé à faire des tests de labo un peu partout, on a swabé un petit peu tous les équipements, puis on s'est rendu compte que ben, la perle d'oxygénation que j'utilisais, je la lavais tout le temps avec aller-retour avec du plastique, puis après ça, il y avait de l'eau bouillante qui passait là-dessus toute la journée, mais en fait, on est obligé en fait de la défaire à chaque brassin après pour régler le problème, puis ça venait de là. On la passait au presto pour être sûr certain qu'elle soit vraiment, 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 vraiment propre, complètement propre. Puis après ça, j'ai plus eu de problème. Ça a complètement réduit ma charge bactériologique. Il y a beaucoup de bactéries un petit peu partout dans une brassée. T'sais, imagine ton refroidisseur à eau, imagine tout plein d'affaires de beaucoup de boyaux et tout. La pierre d'oxygénation, c'en est une. C'est poreux, c'est pas facile à nettoyer en profondeur. Ça dépend comment c'est fait. Puis, tu sais, c'est pas nous autres qui a fait les pierres. Hein. Bon, ben, tu sais, pitcher, inoculer ton sachet sec directement dans ton moule, le fermenter sans penser à l'oxygène. Donc, tu rajoutes un truc de moins, tu dépenses pas d'oxygène. Ça me semble plus constant et plus propre. Bon, tu sais, ça peut être propre le nucléaire. Il me semble que réduire les manipulations, c'est tout le temps un truc facile à penser pour empêcher des problèmes qui peuvent arriver.
Dans le même ordre d'idée, là, c'est quoi ton point de vue sur le rajout de nutriments à levure?
J'oubliais, évidemment, si tu réutilises la levure sèche, parce que c'est pas parce qu'elle sèche que tu peux pas la réutiliser, là. C'est souvent, on va vouloir réutiliser des levures liquides pour baisser le coût, parce que ça coûte cher. La levure sèche, même si ça coûte pas cher, tu as le droit de la réutiliser. Puis, si tu la réutilises, ben, là, tu as besoin de la traiter pareil comme une levure liquide, parce que c'est rendu une levure liquide dès que tu l'as mis dans ta bière. Donc, à ce moment-là, puisqu'elle va avoir besoin de se dédoubler beaucoup plus que quand tu l'utilises sèche, puis qu'elle a moins de stérols qu'elle avait quand tu l'utilisais la première fois, bien évidemment, là, tu vas avoir besoin de nutriments, c'est assez simple. Puis ça, c'est pour toutes les levures dans le monde. Dans une bière. Toutes les Saccharomyces brassicoles, Saccharomyces cerevisiae, puis Pasteurianus pour la bière. Si tu travailles avec un goût, ça dépend vraiment de ton goût. Hein. Ça dépend de qu'est-ce que tu fais, quelle bière tu produis, comment tu la produis, puis avec quoi tu la produis surtout. Si tu utilises que du malt, donc 100% malt, dans une plage de plateau, de densité, là, en 10 à 16 plateaux, je me souviens plus, ça donne 10, 42, genre, jusqu'à
Yes,
10,65 à peu près, quelque chose comme ça.
ouais.
Si tu es dans cette plage-là, puis que tu as du 100% malt, tu as déjà tous les nutriments que la levure a besoin dans ton moule.
Okay.
T'sais, à la limite, si tu veux rajouter du zinc en petite quantité, bah, peut-être, là, mais théoriquement, tu n'en as même pas vraiment.
Okay.
Avec la levure sèche du premier inoculation. Si tu réutilises, ben là, tu vas sûrement avoir besoin de nutriments parce que là, tu en as du zinc, mais tu peux utiliser d'autres choses. Là. Ça peut dépendre de ce que tu vas faire. Du sulfate de magnésium, ça peut être bon. Il y a des nutriments qui existent. On a le BR2 chez nous, qui est Springfield de BR2, qui est un excellent nutriment. Vraiment pas cher en plus,
Okay.
pour ça, utiliser ses levures, ça peut être une option très intéressante, effectivement, pour baisser son coût. Maintenant, effectivement, c'est nécessaire quand ton goût est déficient en nutriments. Comment il est déficient en nutriments? Ben, si tu utilises plein de sucre, le sucre, le glucose, sucrose, fructose, ce genre de sucre-là, les sucres simples, avant une dose, ben, c'est très. Ça peut augmenter, sur beaucoup de ces sucres-là, ça peut augmenter la pression osmotique. Donc, la pression sur la levure quand elle rentre le sucre, au moment où elle transfère le sucre, elle transporte le sucre à l'intérieur de la levure, ça va métabolique, ça peut être tellement intense pour elle, ben, ça va vite. Puis, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Important, plutôt. Si tu as beaucoup d'adjuvants encore là, parce que ça va rendre le plus difficile à fermenter pour la levure, ça peut être important d'avoir des nutriments. Il peut y avoir, tu sais, si tu veux vraiment faire un starter, tu veux faire une pied de cube ou un truc de même parce que tu trouves que les 500 grammes est trop cher, tu veux faire 20 taux avec. Ben, utilise les nutriments parce que ça va être important parce que, ouais.
Ouais.
Si tu augmentes le stress, ça peut être le fun. Mais tu
OK.
sais, un des trucs que moi, je trouve vraiment le fun, encore plus fun, puis c'est pas nécessairement juste pour vendre plus de revues, là. Je sais bien que ça va vendre plus de revues, mais tu sais, si tu as besoin, si tu as un goût à, mettons, 20 plateaux, tu sais, puis que tu es en dehors du 10 à 16 plateaux, 20 plateaux, tôt, ça doit donner 10, 90, 10, 100, mettons, à peu près, je sais plus ce que c'est.
Ouais.
À peu près ça. Là, t'es vraiment en dehors de la plage. Ou si tu veux fermenter, tiens, basse température, c'est à la mode des lagers ces temps-ci, j'adore les lagers. Si tu veux fermenter en bas de 12 degrés Celsius avec la W3410, qui est très connue, c'est stressant pour la lagueur. Puis, elle n'aime pas vraiment ça d'être stressée. T'sais, elle va te donner des faux goûts. Puis à ce moment-là, tu vas avoir besoin de lagrer super longtemps pour qu'elle ait le temps de peut-être se nettoyer son goût des trucs qu'elle n'a pas réussi à nettoyer avant. Donc, à ce moment-là, au lieu de rajouter des nutriments, de l'oxygène pour l'aider à tout faire ça, puis pour elle l'aider, tu sais, quand même que tu veux faire de quoi constant, puis tu calcules qu'est-ce que tu mets, tu sais, combien d'oxygène t'as mis, t'en as-tu mis assez, t'en as-tu mis pas trop, les nutriments, c'est pareil, etc. Ben, à ce moment-là, tu peux juste rajouter plus de l'eau au prix où ça coûte. C'est simple, puis c'est consistant. T'sais, si tu veux aller jusqu'à 9 degrés Celsius, par exemple, ben, là, si tu vas avoir besoin de beaucoup plus de levure, ben, c'est pas constant. Tu vas avoir besoin, avec la 3410, tu vas avoir besoin, mettons, de, je sais pas, deux, trois fois le taux d'inoculation qui est de 100 grammes avec le litre. Tu as besoin de deux, trois fois ce que tu mets normalement à 12, 12, en 12 et 18 degrés, mettons.
Okay.
Sauf que ça va toujours être la même chose. Ta fermentation va toujours, toujours, toujours être pareille. Je trouve ça simple, puis c'est pas coûteux parce que t'as pas besoin d'équipement, t'as pas besoin de passer au laboratoire, vérifier ton oxygénation, après ça, ta viabilité, ta vitalité, parce que tu sais qu'elle va être bonne, tu sais. Moins
OK.
de temps.
Très intéressant. Ben justement, là, tu as pris un petit peu d'avance sur mes questions. Tu as parlé de réutilisation de la levure, mais là, ça, c'est une autre grande question que moi, en tout cas personnellement, puis mon collègue, on se posait vraiment. C'est fait que là, tu me confirmes qu'on peut la réutiliser. C'est quoi ta recommandation sur le nombre de générations, puis sur les méthodes, si ça doit différer ou quelque chose comme ça?
C'est pas évident, ça dépend beaucoup de ta méthode de
Ouais.
travail, de mettre la qualité de ta levure récoltée pour être utilisée, puis qu'est-ce que tu vas faire donc le moment où tu vas la récolter pour la réutiliser. Recommandation, j'ai pas de recommandation exacte, claire, définie chez Fermentis, mais je peux te donner une couple de trucs. Par contre, je te dirais que en fait, chez Fermentis, on recommande généralement entre 4 et 6 réutilisations, là, généralement sur récolte. Et pourquoi on dit ça, en fait, c'est que une levure, c'est très difficile d'être 100% pur. Tu sais, je vais même faire un parallèle, tiens, avec, c'est pas exactement la même chose, mais donner une idée. Tu sais, on parle de pasteurisation, là, parce qu'on est, je suis beaucoup dans les sans-alcool, ces temps-ci,
Ouais.
c'est la mode, je parle beaucoup de ça avec les clients, mais, on parle beaucoup de pasteurisation à cause de ça, parce que c'est très important pour avoir une stabilité du produit une fois que le produit fermenté est empaqueté. Donc, pour être sûr certain que ce soit bon, longtemps. La pasteurisation, ça tue pas tout. Ça, c'est une réduction logarithmique j'allais dire, de la charge bactériologique, mais c'est pas juste les bactéries, c'est les levures, bien sûr. Donc, c'est une réduction logarithmique. Mais ça veut dire que ça, plus tu pasteurises, plus tu pas des doubles, c'est le contraire, en fait, plus divises, en fait, puis divise, puis divise, puis redivise, puis redivise la quantité de bactéries puis de levures qui peuvent être vivantes après, qui peuvent. Puis on parle de pasteurisation. Mais c'est un peu la même chose si tu imagines que la levure peut pas être 100% pure, parce que c'est très difficile d'avoir des pâtes de 100% pure. Nous, on a une des puretés les plus hautes dans le marché. Ça reste qu'il y a quand même, il peut y avoir, il y en a, si en, quand il y en a, si tu regardes la fiche technique, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Puis normalement, la levure devrait être capable de prendre le dessus très, très facilement parce qu'il n'y a presque rien de vivant, de bactéries, de levure wild, puis whatever. Mais bon, mettons qu'il y en a, puis qu'ils réussissent à survivre à ton premier brassin en très petite quantité, OK? Très, très petite quantité, parce que sinon, nous, on n'enverrait pas sur le marché. Une bactérie, ça se dédouble, ça se dédouble 8 fois plus vite en moyenne qu'une Saccharomyces, OK? Saccharomyces, ça se dédouble relativement rapidement, puis très facilement. En fait, c'est très facile pour elle, elle a besoin de ça pour faire son travail. La bactérie, c'est encore plus intense. Si tu prends ton moût, pas ton moût, c'est-à-dire ton levain, ton pied de cuve, ton fond de cuve, ta levure récoltée, puis tu la repitches, ben là, tu fais juste augmenter, puis augmenter à chaque fois les possibilités que ces levures-là, ces bactéries-là, ces cellules-là, ou ces levures sauvages, ces cellules-là se dédoublent plus vite encore que ta saccharomyces, puis tu augmentes la charge charge d'impureté, tiens, dans ton goût, fois, fois, après fois. Fait que, tu sais, en plus d'avoir une possibilité de mutation de ta levure, en plus, tu peux aussi muter ton profil de fermentation. Donc, plus tu vas loin, plus c'est difficile. C'est tout à fait faisable. Puis ça, c'est ce que je viens de dire, c'est bon pour n'importe quelle levure. C'est pas juste fermenter. Mais c'est tout à fait faisable, évidemment, de réutiliser la levure sèche. Absolument sûr, parce que quand tu le mets dans ton goût, c'est devenu de la levure liquide. Donc, c'est pareil. C'est que quand tu réutilises la levure, normalement, tu es supposé faire des tests en laboratoire. Ça va être ton laboratoire maison, c'est tout le correct. C'est bien installé, ça va être facile. C'est vraiment important de savoir qu'est-ce que tu fais avec ta récolte de levure, de la réutiliser. Théoriquement, si tu la réutilises, parce que probablement tu vas faire une bière semblable dans la même veine, puis tu connais ton profil de fermentation, tu veux le reproduire. C'est un peu l'idée de réutiliser. Hein? Sinon, c'est pas juste faire de l'alcool, c'est un profil de fermentation. Si tu t'as pas, si t'es pas capable de la suivre, puis de la caractériser, mais de voir un petit peu ta courbe, s'assurer que elle suit cette courbe-là, que ta vitalité est bonne, ta viabilité est bonne, c'est tes tests de blé d'éthylène. T'assurer aussi que t'es en santé, donc ton pourcentage est élevé, parce que si je sais pas, tu as eu une fermentation ou tu as un problème de glycol, ça a droppé, ta levure a pogné un stress, a quand même fait sa fermentation, mais tu sais, il peut peut-être y avoir une petite touche de cet aldéhyde de plus, mettons, que d'habitude. Tu te dis, bon, OK, ben bonne, ben bonne. T'sais. Tout à fait correct dans la machine. Mais là, reprendre cette levure-là stressée, la repitcher, ben, tu fais juste repitcher du stress. C'est pas qu'elle va être stressée dans le nouveau brassin, c'est juste que tu reprends quelque chose qui est moins en forme. Donc, c'est vraiment important de suivre en laboratoire ce qu'on est en train de faire. Parce que, le but de faire de la bière, quand tu es brasseur, en fait, ton but, c'est de faire de quoi qualité puis consistant. C'est correct de faire des nouveaux produits, il n'y a pas de problème avec ça, mais encore là, il faut que ça soit de qualité. Puis quand tu fais des produits répétitifs, tu sais, tu travailles à une place qui fait quand même beaucoup de production répétitive, là, des produits de
Ouais.
base. Même si c'est important pour nous aussi de faire ça, mais il faut que ça soit constant. Tu sais. C'est important dans le goût. Donc, puis le goût, une façon de voir si la constance est bonne, c'est si ta courbe de fermentation est la même, puis si ta levure a donné le même profil gustatif, le même profil organoleptique, et donc par la fermentation.
Fait que dans le fond, moi, là, je te parle depuis tantôt, tu sais, je te pose des questions depuis tantôt en rapport avec la levure sèche, mais je suis dans le champ un peu parce que dans le fond, dès qu'elle est réhydratée, tu sais, c'est juste la levure liquide qu'on a séchée, tu sais. Et au
Exactement.
final, il n'y a rien qui va vraiment changer du reste, là.
Exactement, tout à fait. C'est juste qu'elle est plus facile à transporter. Tu sais. C'est plus, en anglais, on dit sustainable. Hein. C'est quand on envoie ça dans le monde à partir de l'île, puis de la France, de l'Europe, puis on transfère nos affaires partout dans le monde. C'est juste plus simple. C'est moins lourd. Je ne te vends pas de l'eau, je te vends de la levure, puis la levure, elle pèse rien. Si je te vends ça en liquide, elle va peser beaucoup plus lourd. Imagine celui-là. Ben, tu sais, tu as sûrement déjà vu des pitchs liquides. Hein.
Oui.
Ça, c'est comme un gallon. Là. Des fois, c'est 2 gallons. Si tu as de la lager, ça va être direct, mais si tu as de la lager avec les liquides, ça va être genre 2 gallons. Donc,
Ouais.
pitcher ça, transporter ça partout dans le monde, tu imagines le casse-tête que ça doit faire. Des packs, des ice packs. Le coût aussi, le poids, ça fait pas de sens. Ben, ça fait du sens. Ça fait du sens pour certains. Mais je veux dire, nous, on trouve que ça, c'est beaucoup plus simple. Puis, ça enlève pas de qualité, fait c'est quoi le problème, tu sais. Peut-être qu'on a moins de souches différentes, mais en même temps, nous, ils sont caractérisés chez nous. Si tu me demandes, par exemple, les profils de fermentation dans une les profils organoleptiques, tu veux savoir le genre de quantité d'ester qui va être produite ou la quantité de phénol qui va être produite, par exemple, avec la T58 ou avec la S33, je suis capable de te donner les informations-là parce qu'on les teste et on les vérifie. Il y a quelques années, on a fait un test avec une grosse étude sur la 370, avant que les lagers soient redevenus à la mode chez les craft, chez les brasseries artisanales. On voulait voir, parce qu'on savait qu'elle était quand même assez neutre, c'est une levure qui est très connue, ça vient de chez Weihenstephaner chez en Allemagne, c'est la levure la plus vendue dans le monde. On voulait savoir jusqu'à quel point il était neutre. Tu sais. Puis on a fait un test, on a fait des tests en laboratoire, mais aussi dans des équipements pilotes, différentes. En fait, je pense qu'il y avait 16 différentes conditions de fermentation. Donc, on jouait sur la température, sur le plateau initial, donc la densité initiale. On jouait aussi sur le taux d'inoculation, bien entendu, donc de 25 jusqu'à 200 grammes par hectolitre. Pour voir, puis la température, c'était de 12 jusqu'à 20. Le plateau, c'était de 12 à 20 aussi. Fait que tout ça, ça nous a donné 13, 16 fermentations différentes qu'on a envoyées en laboratoire pour vérifier les phenols, les essais produits. Ensuite, évidemment, bon, les groupes de fermentation, bien entendu, qu'on a toutes pu comparer les unes avec les autres. Mais aussi, surtout, on a un gros panel de dégustation, un panel professionnel de chez Fermentis. Je pense qu'on est la seule compagnie de levure au monde d'ailleurs à avoir ça. Peut-être me tromper, mais il me semble que j'en ai jamais entendu parler. On a vraiment un
OK.
panel professionnel qui est, en fait, on a plusieurs panels professionnels qui vont nous aider à caractériser le résultat organoleptique de nos fermentations, de nos études. Donc, on a fait ça aussi pour s'assurer que, en laboratoire, c'est bien beau de dire, OK, il y a tant de phénol, de temps. OK, ils ont mis l'acétate, jusqu'à tel niveau, d'accord? Quel est le seuil de perception, tu sais. Puis tout le monde est différent. Donc, on a des panels pour s'en assurer. Et puis, on s'est rendu compte que cette levure-là, 410, pour faire un caractère lager, si tu fermentes en bas de 20 degrés Celsius, donc jusqu'à 20, tu n'as aucune production, disons, de l'acétate ou d'autres esters avant 20 degrés Celsius.
OK.
Clairement, elle fonctionne parce qu'elle est porte négative, elle est phénolique qui est négative. Mais donc, tu peux faire monter une lager avec celle-là jusqu'à 20 degrés Celsius, puis elle va être clean, 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 comme n'importe quelle autre lager que tu aurais faite à 12 degrés, avec la même souche. C'est juste que vu que tu as, là, on s'est rendu compte évidemment aussi avec ça, vu que notre étude nous permet d'avoir différentes conditions, on s'est rendu compte que la grande différence entre 12 et 20 degrés Celsius, pour avoir de quoi d'aussi propre, post-fermentation, ben, en fait, c'est que ton taux d'inoculation va baisser, puis ça fait du sens parce que ton stress, dû à la température, 12 degrés Celsius, baisse. À 20 degrés Celsius, tu as beaucoup moins de stress. Donc, au lieu de pitcher genre 120 grammes par hectolitre à 12, dans un plateau, dans un moule normal de 48, 12 plateaux, ben, en fait, tu peux probablement pitcher, ça dépend de ton moule, mais entre 50 et 65 grammes à 20 degrés Celsius, ben, tu vas avoir de quoi clean. Fait que moins de levure, fermentation beaucoup plus rapide, bien entendu, parce que ton métabolisme, le métabolisme de ta levure va être beaucoup moins ralenti. Puis voilà.
C'est intéressant, j'aurais jamais pensé jouer comme ça avec les températures pour peut-être. Ça peut donner des idées à bien des brasseurs, ça, pour des fois réduire les coûts pour. Parce que c'est sûr, tu sais, mettons, à un pitching rate de 1,5, tu sais, ça peut représenter beaucoup de levure, là. Fait que ça peut être assez intéressant de jouer avec la température pour justement. Très intéressant.
C'est très important. La science derrière la production. Tu sais, je le disais, on a peut-être un petit peu moins de. On a peut-être un petit peu moins de souches disponibles, quoique que l'instance, on en sort dans la bouche. On est sur une lancée, ça n'a pas fini. Mais la science est très importante pour nous. On veut être capable de soutenir nos producteurs et leur dire, ben, quand soutenir nos produits, mais si tu as besoin d'aide, on est là pour toi. On est capable de te dire pourquoi elle est bonne, en fait, cette levure-là. On est capable de te dire si d'ailleurs il y a certaines levures qui ont des particularités. Là, il n'y en a pas plein, parce qu'en général, si tu regardes les saphirs, toutes les levures à ale, c'est à peu près tout le même genre de recommandations, taux d'inoculation, etc. C'est relativement semblable, les lagers aussi. Mais il y a quand même deux, trois souches peut-être qui ont des trucs particuliers. T'sais. Par exemple, je sais pas si il y en a une qui est très connue, la WB06, levure à blanche, allemande et ou belge, Weizen. Si tu travailles ton taux d'inoculation, ta température d'inoculation, de fermentation, en fait, ça va changer ton côté soit plus épicé ou moins épicé, donc plus banane, tu sais. Puis c'est là que tu peux jouer sur plus belge ou plus allemande. Tu sais, il y a des trucs de même, tout ça, nous, évidemment, on sait parce qu'on les a caractérisés. Je ne peux pas tout écrire sur un sachet comme ça, donc c'est bien trop petit, là. Mais on a ces données-là.
Pour ça que c'est
C'est.
important de t'appeler si on a des questions.
Oui, absolument. C'est mon travail d'aider, partager ma passion de fermentation. Et c'est ça. La science est très importante. On a un gros département de R&D On a un département d'R&D qui est très, 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 très actif, qui est très, qui travaille beaucoup sur, oui, sortir de nouvelles levures, mais aussi évidemment caractériser, puis ça va de pair avec notre service de panel organoleptique. Puis on a aussi maintenant Campus Fermentis, c'est ouvert depuis un an et demi, 2 ans, presque 2 ans. Ouais, presque 2 ans. On a un Campus Fermentis à Lille, puis avant, on était à différents endroits, on travaillait différemment. Là, on a vraiment plus à Lille. On a une grosse brasserie, ben, grosse brasserie, une brasserie bien tôt, là, 2000 litres, avec un maître brasseur, on a des assistants brasseurs, puis on fait de la production. On a plein, plein de petits fermenteurs de 100 litres qui permettent donc de séparer notre moût de 2000 litres en 20 fermentations. Puis ça nous permet de caractériser la levure. On fait décider d'utiliser la S33, par exemple, de la faire à différentes conditions, différentes températures, par exemple, ou à différents taux de distillation, on peut, parce que c'est le même goût qui est exactement pareil, il vient de la même bouilloire. À ce moment-là, on joue sur nos fermentations, on est capable ensuite, avec nos données de fermentation, de voir notre goût organoleptique, puis dans notre test de laboratoire, voir si c'est conséquent avec ce qu'on s'attendait, ou si la caractérisation est différente de ce qu'on imaginait, puis à ce moment-là, écrire notre littérature, puis être capable d'aider.
Mais justement, tu as parlé de R&D. Comme dernière question, là, comment ça fonctionne un peu la recherche et développement chez Fermentis? Parce que là, tu me parles de tellement de produits, mais tu sais, bon, c'est sûr que des fois, dépendamment avec le fournisseur avec qui on travaille, on n'a pas nécessairement accès à toutes ces sortes-là. Mais est-ce que vous sortez régulièrement des nouvelles sortes de levures? Comment ça fonctionne?
Ben, tu vois, tout un point intéressant aussi, tu sais, on travaille beaucoup par distribution. C'est principalement notre modèle d'affaires, fait que c'est, on n'a pas vraiment beaucoup de ventes directes. C'est pas comme ça qu'on travaille. On préfère avoir des distributeurs qui, eux, vont nous supporter, puis nous, on va aussi pouvoir les supporter sur le terrain. Puis on a une meilleure capillarité, donc, dans le réseau des producteurs. Donc, mais c'est ça. La plupart des produits sont généralement disponibles. Des fois, peut-être qu'il faut aller voir un autre distributeur au lieu d'un, ça peut dépendre. Bon, mais le processus de R&D, c'est sûr, c'est toujours un petit peu complexe d'expliquer tout ça, là, de faire un genre de bref, là, mais c'est la recherche chez nous, c'est basé sur vraiment plusieurs grand nombre de projets donc, qui sont issus du processus de réflexion. Ça se fait de façon pluridisciplinaire, là, donc plusieurs niveaux, là, même nous, là, qui sommes en gamme sur le terrain. Pas notre produit, mais on a notre input, on peut donner notre avis sur des idées qu'on va entendre sur le terrain, par exemple, pour être capable de le monter jusqu'au R&D qui peut s'entendre, en fait, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et donc, développer. Puis l'idée, évidemment, ben, c'est de mettre en marché des produits qui sont disponibles régulièrement. Donc, ça a un lien avec les choix qu'on fait. Puis évidemment, ben, c'est d'aider les producteurs donc à faire de la qualité de la croissance. Donc, évidemment, puis comme je disais au début, ben, on travaille pour le vin, le cidre, la spiritueux, d'autres types de boissons fermentées, en fait. Donc, on a plusieurs projets qui sont gérés par plusieurs scientifiques. Les scientifiques ont un groupe de projets à travailler dessus, non, chacun. Et puis, il y a plusieurs scientifiques qui sont par segment, par exemple. Un segment, je parle de bière, vin, spiritueux, cidre, etc. Dernièrement, on a sorti quand même plusieurs nouvelles souches, effectivement. Moi, quand je suis rentré chez Fermentis, il y a la bière qui venait juste d'arriver, la BR8, la Savoie BR8, Brettanomyces bruxellensis. Ensuite, mais tu sais, je pense qu'il sortait aussi de la COVID, là. Fait que je sais pas qu'est-ce qui est venu la dernière, juste avant la BR8, mais puis la, mais bon, puis, je sais à partir de. La Berrette a quand même pris plusieurs années à créer. C'était pas un produit facile. Ça a pris beaucoup de recherche et beaucoup de développement pour être capable d'avoir des produits de stade, de qualité, puis parce que c'est plus fragile. Hein. Tu sais, j'en parlais tantôt avec la lacto, là. Et les Berrettes aussi sont pas mal fragiles. Les autres aussi ont besoin d'être réfrigérés tout le temps. Et donc, après ça, on a sorti quand même plusieurs autres produits. On vient de sortir une nouvelle lager, principalement pour le marché asiatique, une nouvelle lager fruitée. On a sorti deux nouvelles blanches, d'ailleurs, pour avoir de quoi de nom diastaticus, contrairement à la W07, donc la BW20, qui est en vert, qui est pour les Belgian White, puis les Whitbeer, puis la W68, qui vient de Weinstephaner, comme la 3410, qui est faite donc pour les Weizen. Superbe, 68. On a plusieurs souches, qui viennent de sortir. On en a plusieurs dans l'horizon, en fait, de recherche et développement. Moi, je ne peux pas nommer qu'est-ce qui s'en vient. Donc,
non,
des
non.
trucs vraiment le fun qui s'en viennent. Puis, tu sais, notre entreprise n'a pas fini de croître. On a cru dans les dernières années, n'a pas fini de croître. Puis, on est de plus en plus actifs, en fait, pas juste en recherche et développement, bien sûr, mais notamment dans ce secteur-là. On est, tu sais, on a quand même, je pense qu'on est peut-être les seuls, d'ailleurs, pour le brassicole, à avoir des mélanges d'enzymes et de levures, tu sais, par exemple, la LD20 pour les lagers très atténués, on a la H18 pour faire des saisons, des barley wine, on a des trucs de même qui sont particuliers, tu sais, ça relève tout de l'imagination, puis le travail acharné de notre département de recherche et développement, puis jusqu'au département des ventes. Je pense que peut-être pour se tenir au courant, la meilleure solution, évidemment, c'est de tendre l'oreille à ce que Fermentis dit. On est présent dans les salons, mais bon, on a notre site Internet. On a même une application qui est le fun aussi, qui permet d'avoir les fiches techniques à portée de main, qui permet de trouver de l'information. Je pense qu'on en fait franchement, je sais. On a même des outils pour nous suggérer des levures selon ce qu'on est en train de produire avec ça pense la densité initiale, ça pense au style évidemment. Donc, on va penser à plein de trucs différents. C'est ça.
Ah, c'est cool, c'est cool. Ben, c'était très intéressant tout ça. En terminant, est-ce que tu as des plugs? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Là, tu as parlé des blanches, là, justement, les levures blanches.
Ben, c'est ça, c'est un peu difficile de donner des punchs. On a un département de marketing et communication aussi qui est important. Il
Ouais.
y a une façon, tu sais, ce qui est lancé en France, après ça, est importé en Amérique du Nord, ensuite est disponible au Canada. Donc, il y a aussi un processus, mais donc on peut le voir relativement rapidement qu'est-ce qui s'en vient quand on regarde le site, par exemple, le site web, la page Facebook de Fermentis, le site web de Fermentis ou l'application Fermentis. Les blanches, donc, s'en viennent, sont disponibles. La Saft Lager de France s'en vient, la lager qui donne des esters. Et on a aussi les Saft Mead, donc, pour l'hydromel qui vient d'être juste lancé en Europe, je pense, il y a 2 semaines. Donc, ça aussi, ça s'en vient. C'est pas mal les prochains trucs.
OK.
Chaque gros salon nous permet d'annoncer des nouvelles souches ou des nouveautés. Le prochain, ça va être le CBC à Las Vegas.
Bon, ben, c'était très intéressant. Merci infiniment d'avoir participé. C'était vraiment cool,
Merci à toi.
man. Yes, sir. Puis à vous autres, ben, les auditeurs, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!